Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, fêtons son 40e anniversaire à la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, dans le 11e arrondissement, métro Voltaire ou Oberkampf. Donc la journée va commencer en direct ici et relayée par Radio Libertaire. Et donc on a mis un petit peu ces deux jours sous l'égide de nos compagnons ukrainiens qui combattaient avec Makhno et qui aujourd'hui sont aussi obligés quelquefois de se déterminer dans un combat, même s'ils sont comme nous, contre la guerre et contre toutes les annexions. Voilà. On va laisser la place au sub de la CNT, qu'a organisé déjà pour le colloque Commune de Paris, il y a quelque temps, au lycée autogéré de Paris, un jeu d'éducation populaire autour du mouvement ouvrier et de ses grandes figures.
Bonjour. Donc oui, donc nous sommes le syndicat unifié du bâtiment, donc de la CNT. Et donc pour le 150e anniversaire de la commune, on a participé à l'ouvrage collectif de la CNT et de la Fédération anarchiste sur la commune de Paris. Et donc tous les ans, on a l'habitude de monter au mur des fédérés le 16 avril, le jour du décret de la réquisition des ateliers. Et donc on a participé à cet ouvrage collectif sur cette question de la réquisition et de la place donc des ouvriers. Quand on s'est posé la question, on s'est dit on n'est pas scientifique, donc on ne va pas apporter des éléments nouveaux de recherche, etc. On s'est situé comme des militants en regardant d'autres militants que l'histoire a peut-être des fois tendance à élever sur un piédestal inatteignable pour des militants d'aujourd'hui. Donc c'est en tant que militants syndicaux qu'on a approché les militants de l'époque. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, à travers les fiches qu'on vous a distribuées et qui représentent soit des militants de 1871, soit des militants d'aujourd'hui, de les interpréter, c'est-à-dire qu'on va tirer un numéro au sort, le numéro est en rouge sur la fiche que vous possédez. On vous demande de l'interpréter, donc de présenter ce personnage et de nous dire si, à votre avis, c'est quelqu'un qui vivait en 1871 ou quelqu'un qui est contemporain. Voilà. Donc, en tant que main innocente, je tire un premier numéro qui est le 4.
Alors, le 4... le micro... Oui, voilà.
Il faut que je sache m'en servir. Oui. Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Alfonso, 56 ans, ouvrier de métier, un mandat de militant. C'est son trait ou ses traits de caractère. Alfonso est un militant passionné qui trouve son équilibre entre la flânerie des paysages de campagne et la propagande syndicale. Débrouillard, il est toujours disponible pour prêter main forte. Sa profonde humanité en fait un excellent pédagogue pour les jeunes militants ou militantes.
Donc la question, 1871 ou 2022?
Eh bien, je suis très ennuyée.
Il nous faut une réponse.
Il faut une réponse. Je vais dire 2022.
Alors, 2022, oui, en effet, Alfonso est un des militants du syndicat unifié du bâtiment. Donc, on accroche son portrait ici. Et donc, je tire un deuxième numéro, le 28.
Alors, je passe le micro.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, ma personne à moi, c'est un homme, Didier, 45 ans, chauffeur-livreur, militant. Didier travaille solitaire, approvisionne les chantiers de Paris en matériaux de construction de toutes sortes. Il en profite pour diffuser les tracts et journaux syndicaux et rappeler aux ouvriers du chantier leurs devoirs syndicaux. Ben moi, comme ça, instinctivement, je dirais qu'il est de notre époque, 2022.
Oui, alors 2022, oui, c'est aussi un militant du syndicat. Je tire le numéro 1.
Numéro 1. Eh bien, voilà, notre chanteuse préférée.
Merci, c'est trop d'honneur. Oui, alors donc, bonjour à tous. Moi, il s'agit de Jean-Louis, 31 ans, menuisier. Son mandat était le secrétariat. Son trait de caractère, comme c'est indiqué sur l'affiche, c'est tout en travaillant sur ses pièces de bois, Jean-Louis garde un regard large sur le fonctionnement de son métier. Convaincu de la nécessité d'une organisation syndicale et de travail en fédération de corps de métier, afin que les travailleurs s'organisent du bûcheron au sieur, au menuisier, pardon, excusez-moi, je bafouille un peu, sur toute la chaîne afin de mettre en place un respect de l'humain et de l'environnement. Moi, je dirais que cette personne était de 1871.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est ce que à travers ce qui est dit, la façon dont c'est présenté, il me semble que c'est plutôt de cette époque-là.
Alors, en effet, c'est Jean-Louis Pindy, donc, qui est reconnu pour avoir mis le feu à l'hôtel de ville. Donc, je tire un autre numéro, le 5.
Alors, le 5, est-ce que le 5... Ah, voilà, la petite main qui se lève. Tiens, je te donne le micro quand même, il faut que tu parles dans le micro.
C'est adorable. Alors, il s'appelle Georges, 34 ans, architecte, propagandiste. Georges réalise texte et visuel pour la défense des droits des travailleurs. Son caractère froid et introverti tranche avec sa plume exaltée. Ses paroles sont rares et écoutées. Jugé par les forces répressives, il paie de sa chair la défense de ses convictions. 71.
Oui, donc Georges Arnoux. Donc j'accélère parce que comme on a peu de temps en fait, si on veut en parler un peu après, le 27.
Alors le 27, c'est pas le 22 à Asnières, c'est le 27 et il est où le 27 à... Est-ce que quelqu'un va lever la main? Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, qu'on est dans la salle Olympe de Gouges, vous pouvez nous rejoindre, c'est 15 rue Merlin dans le 11e arrondissement, métro Voltaire. Ou Père Lachaise, voilà, au choix. Et nous sommes donc dans une des salles où a lieu différentes animations et débats. Et là, en l'occurrence, une foule nombreuse répond déjà au quiz que vous posez sur les communards d'aujourd'hui ou d'hier. Et là, le 27, alors
Le 27, on va passer au 30.
Plutôt, voilà. Alors, je me déplace dans cette salle.
Oui, bonjour. Il s'agit de Pierre, 31 ans, ingénieur, coopérateur. Pierre possède l'écoute et la discrétion des sages. Son métier lui a appris à prendre en compte tous les facteurs avant d'émettre un jugement ou de prendre une décision. Sa parole parcimonieuse et équilibrée lui donne crédit pour échanger avec d'autres assemblées militantes. J'ai envie de dire 1871.
Alors Pierre est un ingénieur donc en bâtiment et structure, donc actuellement membre du syndicat du bâtiment, qui, comme vous pouvez le constater, est un syndicat d'industrie, donc rassemble des professions très variées, donc du menuisier ébéniste à l'architecte, à l'ingénieur, ou à l'élagueur de la ville de Paris. Numéro 2.
Bonjour, alors ma fiche c'est Eugène, 31 ans, relieur, coopérateur, le mandat. Trait de caractère, militant courageux formé par le syndicat, il s'est investi dans la création d'une coopérative alimentaire, d'un restaurant coopératif. Il participe à de nombreux piquets de grève à Paris, dans lesquels sa montre offerte par ses camarades ne le quitte jamais. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais un faisceau de présomption me porterait à dire que Eugène vit en 2022.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, Eugène Varlin...
Ah ben voilà, perdu.
Donc, voilà. Qui nous a montré le chemin pour tout syndicaliste. Le 24.
Alors, attends une seconde, je te passe le micro.
Alors, Karimou, 28 ans, échafaudeur, trésorier dans son mandat et trait de caractère. Karimou est un travailleur organisé qui, dans son métier comme dans son mandat de trésorier, édifie minutieusement, calcule les plateformes sans omettre une pièce ou un chiffre. Moi, je dirais que à cause de son prénom, c'est un militant de 2022.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, c'est vrai que le prénom montre que l'immigration de 1871 est un peu différente de l'immigration de 2022 et qu'un certain nombre de camarades africains sont aujourd'hui, bien évidemment, membres du syndicat. 23.
Très bien. Alors, Léodile, 47 ans, journaliste écrivaine. Son mandat, c'est la formation. Léodile parvient à allier ses convictions avec son métier de journaliste. Elle écrit dans des journaux révolutionnaires et n'hésite pas à s'engager pour l'égalité de genre. Son roman, Un mariage scandaleux, constitue une critique du caractère inégalitaire du mariage. Elle participe également à la formation des plus jeunes. Alors, je pense que c'est une militante de 1871.
Un nom?
Un nom. Comment?
Un nom?
André Léo.
André Léo. Voilà. Donc, en cette semaine de grève des femmes... Se rappeler d'André Léo est un bon souvenir. Numéro 3.
Re-moi. Alors, le nom, Nathalie, âge 45 ans, métier relieuse, mandat déléguée syndicale, exaltée et intransigeante, elle participe aux grèves parisiennes qui lui valent une certaine reconnaissance. Fermement engagée sur l'égalité de genre, elle participe à la création d'une coopérative alimentaire aux côtés d'Eugène. Et ben, comme j'ai eu Eugène avant et que c'était 1871, je vais les mettre ensemble. Je ne sais pas pourquoi.
Donc une idée du nom de cette personne
Voilà, prénom me disait quelque chose.
Nathalie Lemel, qui a un peu été éclipsée par l'image très forte d'Eugène Varlin, mais qui a participé à beaucoup des actions d'Eugène Varlin. 14.
Vladimir, 28 ans, bûcheron et lagueur, coopérateur, trait de caractère. Vladimir est de toutes les luttes, camarade dévoué, ayant le sens des responsabilités. Il consacre le moindre temps libre à son engagement militant. Mêlant militantisme et sens de la fête, il sait trouver les mots pour encourager ses camarades. Il participe activement au développement d'une coopérative alimentaire. Eh bien, pour le sens de la fête, je dirais 2022.
Oui, alors Vladimir est donc, comme je disais tout à l'heure, un camarade et lagueur de la ville de Paris, syndiqué au bâtiment, puisque le fonctionnement des élagueurs est un fonctionnement de chantier aussi, et donc très proche de nos métiers. 10.
Alors, le numéro 10 a levé sa main. Non, tu n'as pas levé ta main.
Gwendal, 35 ans, tailleur de pierre, trésorier, trait de caractère, mêlant expérience professionnelle et fermeté. Gwendal est un travailleur reconnu et respecté sur les chantiers de taille de pierre. Son intransigeance et son intolérance aux injustices en font un camarade combatif et au verbe haut. Moi, je pense qu'il était de l'époque de la Commune.
Donc, Gwendal est aussi un camarade du syndicat du bâtiment, sur un vieux métier, bien évidemment, la taille de pierre, donc avec une grande importance issue du compagnonnage, mais qui aujourd'hui se retrouve au syndicat. 26.
Le numéro 26, voilà.
Merci. Stéphane. Stéphane, 33 ans. De son métier ouvrier polyvalent et son mandat coopérateur. Stéphane est le meilleur vendeur de la coopérative qui soit. Sa gouaille, acquise au fil des différents chantiers qu'il a arpentés, en fait un militant loquace et connu de tous. Je dirais 2022.
Oui, 2022, donc on essaye bien évidemment d'être dans la tradition du mouvement ouvrier, c'est-à-dire que le syndicat a aussi une coopérative, donc a eu des coopératives de production dans le bâtiment, a aujourd'hui une coopérative de consommation qui s'appelle la Substantielle, et donc qui pour nous est dans l'esprit et la continuité du mouvement ouvrier de celui qui s'est exprimé en 1871. 25.
Alors le numéro 25, notre loto communard continue avec le numéro 25.
Merci. Bonjour, numéro 25, c'est Victorine, elle a 28 ans, elle est couturière et mandat coopératrice. Un trait de caractère, entrée en militantisme suite aux injustices du quotidien, Victorine fonde une boulangerie coopérative avec son mari. Impétueuse et révoltée, elle porte assistance aux travailleurs travailleuses en difficulté et son appui au combat collectif. Je suis bien embarrassé. Son prénom m'inviterait plutôt à l'avoir en 1871.
Donc 1871, en effet, Victorine Brochet, dont on peut trouver le témoignage aux éditions Libertalia. 27.
Le numéro 27, est-ce qu'il
il
est dans
parti.
La salle? Je crois qu'il a déjà été levé, le numéro
29.
27. Le 29.
Yves, 58 ans, ébéniste, son mandat propagandiste. Yves est aussi à l'aise avec le bois que dans le contact humain. Il façonne ses discours comme des meubles d'artisan. Son exigence et son expérience en font un ouvrier écouté. Bon, moi j'ai envie de dire 2022.
2022, oui, comme la taille de pierre, l'ébénisterie reste un métier qu'on a tendance aujourd'hui à appeler d'art, mais qui pour nous reste un métier à l'échelle, à la même échelle que celui d'échafaudeur, c'est-à-dire qui participe à l'ensemble de la production. Donc il reste un numéro, le 13.
Le numéro 13, eh bien voilà, un micro vite. Ok.
Alors Albert, 32 ans, ouvrier ciseleur. Mandat, commission du travail. Albert est le camarade que chacun veut avoir à ses côtés. Calme et doté d'une profonde empathie, il milite et s'agite sans cesse pour l'organisation des ouvriers de l'artisanat, sans jamais perdre la tête et s'emporter. Il est celui sur qui on peut compter lorsqu'on a besoin de conseils et soutien dans nos petites... Il manque un mot. Du quotidien, dans nos métiers. Voilà. Alors là, 71.
71. Albert.
Bien sûr.
Donc s'il n'y a pas... Je rappelle le numéro 27 au cas où il serait parti téléphoner. Non, pas le numéro 27.
Okay. Non, le numéro 27 n'est pas là, manifestement.
Ok. Donc on a épuisé pas toutes nos cartes, mais comme on n'avait qu'une demi-heure, on a fait une sélection dans les cartes. Quand on a participé au colloque sur la Commune de Paris, on avait plus de cartes. Donc voilà. Donc je ne sais pas quel est votre avis. L'idée c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui les militants d'aujourd'hui sont comparables aux militants de 1871? Est-ce qu'il faut les comparer? En tout cas, la position qui était la nôtre c'était de dire dans la difficulté qu'on rencontre dans notre militantisme et de remettre à sa place le syndicalisme tel qu'il a pu être conçu à ses origines. La question des militants, de comment ces militants peuvent intervenir dans un mouvement. Est-ce que les militants de 1871 avaient une force qu'on n'a pas? Est-ce que ce sont essentiellement les événements qui ont fait que ces militants ont laissé trace dans notre souvenir, dans notre mémoire? Voilà, c'est une discussion qu'on voulait partager avec vous. Donc, si certains souhaitent commenter cette petite expérience commune, bah, le micro est ouvert.
Voilà, le micro est entre mes mains pour l'instant, mais si quelqu'un veut dire quelque chose, non? Bon, vous avez été tous... Ah si, je me déplace au fond de cette gigantesque salle.
Oui, bonjour. Bon, j'ai 40 ans de carrière à la Poste. Et lorsque je suis rentré à la Poste, les syndicats étaient prédominants. Et maintenant, le syndicalisme a pratiquement disparu, en tout cas, semble entièrement inefficace dans ce secteur. Et j'ai l'impression que maintenant, on assiste un petit peu à la fin d'un certain syndicalisme, et notamment les syndicats ont de moins en moins d'adhérents. Donc, que pensez-vous de cette situation ? Général.
Enfin, si je peux prendre la parole, je considère en tant que syndicaliste que le syndicalisme a depuis la première, mais surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, a perdu ses origines, c'est-à-dire celle de porter un projet global de société qui exprimait les communards de 1871 en développant à la fois des coopératives, en développant une action syndicale importante, en développant l'internationalisme. Quand on voit comment Varlin soutenait l'ensemble des grèves sur au moins en Europe, et la façon dont aussi le mouvement ouvrier soutenait aussi les grèves d'ouvriers français, je pense que le syndicalisme, enfin en ce qui nous concerne en tout cas, est toujours viable. Le problème c'est de retrouver un projet qui puisse fédérer, et ce que le syndicalisme paritaire a oublié, je pense, au sortir de la guerre de 14, avec l'intégration du syndicalisme dans le fonctionnement de l'État.
Moi, je voudrais rajouter qu'en ce moment, toutes les luttes, et en grande partie des luttes gagnantes, elles sont portées par des femmes et des femmes qui sont femmes de chambre, travaillant dans les EHPAD, voilà. Donc, dans les métiers les plus mal payés, dans les métiers les plus précaires. Alors, c'est soutenu des fois par le syndicat, hein, bien sûr, ou les syndicats, mais en tout cas, cette volonté de gagner quelque chose de fort, eh bien, il suffit de regarder ce que les luttes des femmes de chambre dans les hôtels ont montré, quoi. Voilà. Et je pense, si la forme du syndicalisme n'est plus celle d'avant 1914, en gros, hein, pour dire ça, ça n'empêche que les revendications et les luttes, elles peuvent être encore très très fortes.
Eh bien, nous allons arrêter ici ce loto suivi de cette discussion-débat entre vous tous. Merci infiniment d'avoir participé à ce jeu, ce loto communard. Radio Libertà 89.4, nous sommes pour fêter nos 40 ans ici dans cette salle Olympe de Gouges qui se situe au 15, rue Merlin dans le 11e, métro Voltaire ou Père-Lachaise. Au choix, venez nous rejoindre. On est là jusqu'à 17h. Il y aura des concerts, des débats, des interventions diverses et variées. Une librairie, vous pourrez venir acheter même des livres ce dimanche. Et on fait une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Merci à tous.
Je vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tout solidaire, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça pourquoi faut rejoindre le syndicat. Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron, pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas autant. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, fainéant, pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire. Tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia, Ceta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh ben les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.